sur un générique aux consonances arabes, je vous propose aujourd'hui de vous plonger dans l'histoire de la guerre d'Algérie à travers un roman, La Maison des Chacals, d'une manière un peu inédite puisque le livre raconte cette guerre vue de l'intérieur de chacun des deux camps. La Maison des Chacals, c'est d'abord l'histoire de deux hommes, Philippe Joinet et Rachid Bouira, nés près de Sétif aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, et qui sont observés par une journaliste italienne qui fera de leur histoire un film. Alors pour parler de ce livre paru aux éditions du Rocher, je reçois l'auteur de La Maison des Chacals, Evelyne Caduc. Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, je voudrais qu'on plante un petit peu le décor de ce livre, et puis que vous nous parliez aussi des personnages principaux qui vont faire l'histoire de ce roman.
Eh bien, le premier décor tout au moins, c'est Alger, l'arrivée à Alger, que précisément Philippe ne connaissait pas, puisqu'il n'avait jamais eu l'occasion d'y venir durant ce que l'on appelait pudiquement les événements, et avant son départ pour la France. Donc il revient en Algérie, et c'est Alger qu'il découvre, et c'est à Alger que petit à petit, tout le fil de l'histoire ancienne va se dérouler à partir d'Alger.
Alors, il y a deux personnages principaux qui sont Philippe Joinet et Rachid Bouira. Pour parler de ces deux personnages, vous remontez un peu plus loin dans le temps en parlant de leurs parents, de leurs grands-parents.
Oui, bien sûr, et d'abord de leur père peut-être, puisque tous les deux ont eu le même drame à vivre et à intégrer, c'est-à-dire la mort du père, tué par ce que l'on pourrait appeler le camp de l'autre. En effet, le père de Rachid, Ahmed, a été tué par les gendarmes le 8 mai 1945, lors de la répression de Sétif, après les émeutes de Sétif. Et le père de Philippe, Albert Joinet, qui était médecin, a été tué alors qu'il venait de faire un accouchement dans un douar en pleine nuit, en 1956. Donc l'un et l'autre ont ce drame en commun.
Est-ce que ces personnages sont imaginaires ou réels ? Parce qu'il faut préciser que vous êtes né vous-même en Algérie, vous y avez vécu jusque dans les années 60.
Oui, j'ai quasiment passé mon enfance et toute mon adolescence en Algérie, quasiment jusqu'à la fin de la présence française en Algérie. Et ce que l'on peut vous dire, c'est toujours la même réponse, c'est-à-dire que dans un roman, il y a un mélange du réel et de l'imaginaire. Les faits renvoient à des faits réels, mais ils ont été rassemblés, organisés d'une façon un petit peu différente, puisque cette histoire est éminemment symbolique de quelque chose de beaucoup plus important.
Donc dans chacun des personnages, on retrouve un peu de vos amis, de vos proches de l'époque.
Oui, des amis, des proches, mais aussi bien des lectures, puisque derrière le personnage d'Albert Joinet, il faut revoir la réalité d'Albert Camus.
Alors au début du livre, vous racontez comment Arabes, Français et les Européens plus généralement arrivent à vivre ensemble. Et puis donc on est en 1936, c'est l'époque du Front Populaire en France. La plupart des nationalistes demandent à être rattachés à la République française. Et puis 2 ans plus tard, en 1938, donc il y a eu des tensions fortes pendant ces 2 années. Le projet qui devait faire des musulmans des Français de plein droit et retirer. Qu'est-ce qui s'est passé qui a pu justifier une telle décision ?
Eh bien, il faut dire le nom de ce projet, c'est le projet Blum-Violette, qui en effet avait eu l'approbation de la plupart des intellectuels et même des grands mouvements politiques qui revendiquaient l'indépendance de l'Algérie ou bien une forme d'association pour certains plus complexe et plus souple en même temps. Donc ce projet avait intéressé tout le monde, or il a été enlevé parce qu'en France précisément, il y avait d'une part un intérêt beaucoup plus important pour ce qui se passait en Europe, à savoir les avancées d'Hitler et toutes ses tentatives pour imposer sa domination sur toute l'Europe. Et d'autre part, il y avait eu, il faut bien le reconnaître aussi, un frein du côté aussi bien de la métropole que des responsables politiques des habitants européens de l'Algérie qui estimaient qu'ils avaient à voir de plus près ces propositions car elles comportaient à leurs yeux des aspects inquiétants. La grande innovation de ce projet à cette époque-là, donc bien avant la guerre, c'était bien sûr d'accorder tous les droits de citoyens français à la totalité des habitants de l'Algérie, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'alors.
Et le paradoxe, c'est qu'ils ont les devoirs des citoyens français, puisqu'en 1939, ils vont tous recevoir leur ordre de mobilisation pour la guerre, mais ils n'ont pas les droits qui y sont associés.
Vous avez exactement mis le doigt sur le problème essentiel qui est absolument incompréhensible. Que des hommes politiques n'aient pas compris que c'était ça à l'époque qu'il fallait résoudre, que c'était cette contradiction qu'il fallait résoudre, c'est absolument incompréhensible. Alors on le dit maintenant avec le recul du temps, bien sûr, mais ça a été une des grandes erreurs, voire une erreur criminelle, bien sûr, quand on leur a demandé tous ces sacrifices pendant la guerre. Donc comme vous le dites, ils avaient la nationalité, ils étaient de nationalité française, mais ils n'avaient pas la citoyenneté française, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de vote qu'ils auront après la guerre. Mais ce sera bien tard.
Alors on parlait des Algériens, mais à un moment, au début du livre, vous précisez que là-bas, en Algérie, ce terme d'Algérien ne désigne pas les personnes qu'il est utilisé pour d'autres situations.
Ah oui, tout à fait. Ils étaient tous habitants d'Algérie, européens et musulmans, comme on le disait, ou bien encore indigènes. Vous connaissez le titre de ce film de Bouchareb. Donc, c'était les noms qu'on disait, et certainement pas pieds noirs, en tout cas, pour les Européens d'Algérie. Assurément. Donc ça, c'est encore une appellation récente.
Quel est le sens qu'on peut mettre derrière cette question de vocabulaire ?
Eh bien, comme vous avez raison de mettre le doigt là-dessus, parce que c'est une question importante, pour ma part, je dirais qu'il faut la replacer à son époque, comme toujours. Et donc là, à ce moment-là, ce sont les historiens qui en ont bien parlé de ce problème, et je renvoie à leurs études, qui sont très complexes. Mais il n'empêche que c'est extrêmement important. On va peut-être s'arrêter sur un point particulier, le fait qu'il n'y aurait pas eu toutes ces distinctions si on n'avait parlé que de citoyens français en Algérie, tout simplement, indépendamment de toutes leurs origines, tout en respectant les confessions différentes, en respectant ces religions différentes. Et c'est peut-être là aussi l'erreur de cette république une, indivisible et laïque, d'avoir pas eu assez d'imagination pour savoir comment intégrer les musulmans qui auraient conservé leur statut musulman à l'intérieur d'une république française.
Ce que réclamaient les Arabes et les Berbères de l'époque, c'est-à-dire d'être rattachés à la république française, d'être français et néanmoins de garder leur langue, leurs coutumes, leurs traditions.
Et bien sûr, le grand représentant de cette idée, c'était Ferhat Abbas, précisément, qu'on n'a pas écouté à temps.
Alors je vous propose qu'on écoute tout de suite le solo de Quitra et vous nous expliquerez après qu'on l'ait entendu pourquoi vous avez souhaité qu'on le diffuse aujourd'hui. Sur RCF Côte d'Azur, nous venons d'écouter le solo de Quitra. Nous sommes en compagnie d'Evelyne Caduc qui est venue nous parler de son roman La Maison des Chacals qui est édité aux éditions du Rocher. Evelyne Caduc, pourquoi avoir choisi ce morceau aujourd'hui ?
Eh bien, c'est deux, comme vous avez eu la gentillesse de modifier votre générique pour faire passer la Tuccia d'abord. Je voulais dire que cette Tuccia initiale était extrêmement importante parce qu'elle fait partie du patrimoine algérien et qu'elle a inspiré en particulier Camille Saint-Saëns lorsqu'il a composé la bacchanale de Samson et Dalila. Quant à ce solo de Quitra, eh bien, il est joué par un musicien de l'orchestre Mohamed Hasnadji qui est un des grands spécialistes de musique, non pas arabe, je précise, mais andalouse, dit-on, en Algérie, avec aussi Smaïn Hini, que nous avions invité précisément il y a 3 ans, dans le cadre de l'année de l'Algérie en France, et qui avait donné 2 superbes concerts à Cannes et à Vallauris.
Alors, dans votre livre, donc La Maison des Chacals, on voit en parallèle, vous racontez en parallèle 2 histoires, celle de Philippe Jouannet et celle de Rachid Bouira. Peut-être pour comprendre un peu leur histoire, vous revenez sur leurs ancêtres, leurs parents, leurs grands-parents, on le disait tout à l'heure. Je voudrais à ce propos que vous nous racontiez, peut-être que vous nous lisiez ce passage de l'arrivée d'Armand Cellier.
Le père Cellier, qui est l'ancêtre de Philippe
Jouannet,
voilà, faisait partie de l'armée de Napoléon III. Il a été libéré ensuite à la fin de la dernière campagne. Et il est arrivé à El Ouricia, dans la région de Sétif, où se passe le roman. L'histoire, en fait, d'Albert Jouannet et de son fils Rachid et Philippe Petit. Voilà, alors le passage. Comme il n'avait pas les 3000 francs nécessaires pour racheter la propriété dans laquelle il avait été employé et dont le patron était retourné précipitamment en Europe parce que toute sa famille avait été décimée par les épidémies, Armand Cellier fut employé en qualité de métayer par la compagnie genevoise. Pendant des années, il travailla dur et d'abord seul à défricher de nouveaux champs. Souvent, il dut se contenter de pain et de café. Mais à mesure qu'il mettait la terre en valeur, son prix augmentait et la possibilité qu'il aurait eue de la racheter s'éloignait d'autant. Alors, en 1873, comme il avait mis de côté les 5000 francs nécessaires pour obtenir une concession de l'État, il décida d'en appeler aux autorités. Cellier avait gardé le double de la lettre qu'il avait rédigée d'une belle écriture appliquée et qu'il avait envoyée au gouverneur général. Il y a en Algérie des hommes qui, le corps péniblement courbé vers la terre, y cherchent depuis 15 ans, 20 ans, avec leur pain de chaque jour, l'avenir d'une modeste existence en échange de toute la sueur qu'ils lui donnent. Cependant, ces travailleurs infatigables restent malheureux toute leur vie. C'est que cette terre sur laquelle ils dispensent toute leur fatigue ne leur appartient pas. Ils travaillent sans relâche, non pas pour eux, mais pour un propriétaire auquel ils ont à servir chaque année un tribut élevé. Arrive une année stérile ou un de ces orages de grêle si redoutables dans nos régions, et le cultivateur voit disparaître tout le fruit de ses épargnes. Il lui faut tout vendre pour payer son propriétaire, car le propriétaire, lui, ne fait point de grâce. Il ne connaît ni bonne ni mauvaise récolte. Le sieur Armand Cellier, jardinier et agriculteur, est au nombre de ses déshérités. Il vous prie de bien vouloir lui accorder une concession aux environs de Sétif, de préférence à El Ouricia. Mais Cellier n'était pas marié, et sa demande avait été rejetée. À 3 reprises, il avait vécu pendant quelques mois avec une femme, veuve ou abandonnée, qui s'était retrouvée seule en Algérie. Mais ces liaisons n'avaient jamais duré bien longtemps. Il aimait trop sa liberté. Quand il connut le motif qui avait fait rejeter sa demande, il décida sur l'heure d'épouser la veuve Marie de Pau qui tenait le café du village et d'adopter sa fille âgée de 12 ans. Peu de temps après, le préfet de Constantine lui accordait à Bourmont un titre de concession de 20 hectares attributif de propriété pour une période de 5 ans.
Alors, peut-être après ce passage, il faut qu'on explique justement toutes ces histoires de terres, de propriétés, de concessions qui ont joué un rôle important quand même dans cette guerre.
Et oui, parce que ce qu'il faut savoir tout de même, c'est que ceux qui étaient partis en Algérie, qu'on a improprement appelés les colons, n'étaient pas du tout ce que se représentait le bon peuple de France, à savoir des gens qui partaient là-bas, fortunés, pour faire suer le burnous aux habitants du territoire, mais bien des pauvres, tout simplement, des émigrés de l'époque qui avaient tout perdu dans leur pays d'origine, qui était bien souvent la France, mais comme on l'a vu, ça pouvait être aussi la Suisse, puisque la compagnie genevoise avait acquis des territoires qu'elle louait en quelque sorte à des métayers suisses ou d'autres, des Italiens qui étaient partis, et ils s'étaient installés sur des terres que possédaient, après le fameux Senatus Consulte de 1863, le gouvernement de la France de l'époque, et terres qui avaient été prises donc à tous les Berbères qui n'avaient pas pu donner des preuves de la possession de ces terres. Alors, si vous voulez, je peux vous lire un passage vous montrant comment les arabo-berbères, eux, vivaient cette installation. À la mosquée de Constantine, Miloud avait longuement écouté les oulémas, Ben Badis surtout, à qui il vouait une grande admiration. Ben Badis rappelait aux Algériens qu'ils étaient les descendants d'une race glorieuse, les Beni Hilal, ces bédouins venus d'Arabie au Xe siècle. Ils appartenaient à ce peuple qui avait donné au XIIe et XIVe siècle les plus grands savants et les artistes les plus raffinés de l'époque. quand la France n'existait pas encore, disait-il. On trouvait déjà des universités à Fès et au Caire. Maintenant que la grande communauté musulmane rassemblait presque 1 milliard d'hommes, les Algériens devaient donc reconquérir leur juste place dans le monde et retrouver tous leurs droits d'hommes libres dans ce pays où ils vivaient depuis si longtemps. Émile Oud lui avait raconté comment leurs ancêtres s'étaient installés sur les hauts plateaux. Il y a des siècles et des siècles, la grande tribu berbère des Ketama étendait sa domination sur toute la région de Sétif. Mais un jour, nos ancêtres, les Beni Hilal, sont arrivés et ils ont aimé les plateaux parce qu'ils y ont trouvé des grands terrains pour leur cheptel et une pâture abondante et variée. Les Berbères et les Arabes ont alors constitué un seul peuple en combinant leurs langues et leurs coutumes respectives. Ensemble, ils ont eu à combattre les Turcs qui avaient envahi les côtes. Ensemble, ils ont été vaincus. Ensemble, ils ont été obligés de partager avec les envahisseurs le produit de leurs terres qui sont passées sous le contrôle des grands officiers et des dignitaires du Beylik. Par la suite, les Français nous ont aidés à nous débarrasser des Turcs qui nous prenaient le fruit de notre travail. Mais, à leur tour, ils se sont emparés de nos terres. Et même les biens des Abous, les biens sacrés de la religion, ont été confisqués. En contrepartie, les mosquées et les Aouïas ont reçu une rente aussi dérisoire que les terres de compensation. Voilà pourquoi il nous faut maintenant combattre pour récupérer notre terre, cette terre qu'avaient possédée nos ancêtres.
D'après vous, le fait que les biens sacrés de la religion aient été confisqués, c'est une des autres grandes erreurs de la France?
Oui, avec le fait qu'il n'y ait pas de citoyenneté française, oui bien sûr, parce que la République française, comme je le disais en commençant, n'a pas eu l'imagination d'inventer une forme particulière à ce nouveau pays qu'elle intégrait en elle-même. Il aurait fallu en effet pouvoir respecter fondamentalement la langue et la religion, ce qui n'a pas été le cas puisque la langue, on ne l'apprenait pas à l'école. On apprenait le français uniquement, le français de la République, une et indivisible.
Beaucoup d'enfants de cette époque-là, pourtant arabes, n'ont pas appris l'arabe à l'école.
Non, ils le possédaient comme langue maternelle. C'était justement la contradiction entre la langue maternelle et la langue officielle de...
enseignée.
Voilà, et qu'il était indispensable de connaître, n'est-ce pas, pour vivre et trouver du travail ensuite.
On a le sentiment, après ce deuxième passage, que finalement, alors il y a d'abord les Turcs, ensuite il y a les Français. C'est un peuple qui est quand même, je ne sais pas si le terme est exact, mais écrasé, oppressé par des envahisseurs venus de l'extérieur. C'est peut-être un peu fort ce que je dis.
Mais c'est-à-dire que écrasé, oppressé, oui, dans une certaine mesure et non dans une autre. Parce qu'il est bien évident que la colonisation a eu des aspects positifs, c'est absolument vain de le nier. Indépendamment de cela, elle était associée et très étroitement à un système colonial qui, lui, était complètement pernicieux puisqu'il ne reconnaissait pas l'identité de ces peuples qui étaient là, qui étaient présents et qui avaient une culture à eux au nom de la supériorité de la culture des Lumières. Donc c'était le principe des Lumières qui devait être transmise à ces peuples qui n'avaient pas un développement suffisant aux yeux de ceux qui étaient arrivés dans ce pays, et donc des Français.
Je voudrais qu'on écoute maintenant un deuxième morceau que vous avez choisi aussi, c'est le Sancta Maria des Pères Blancs. Et puis après la musique, vous nous direz pourquoi vous avez choisi et trouvé que c'était important qu'on l'écoute aujourd'hui. Sur RCF Côte d'Azur, donc nous venons d'entendre le Sancta Maria des Pères Blancs joué au grand orgue de Notre-Dame d'Afrique à Alger. Evelyne Caduc, pourquoi avez-vous souhaité qu'on entende ce morceau aujourd'hui?
Eh bien d'abord pour célébrer l'action des Pères Blancs pendant tout le temps justement de la présence française en Algérie et même après, puisque c'est eux qui vont payer le lourd tribut durant la période des années noires avec le meurtre et le massacre des 7 moines de Tibi-Hérine.
Alors, Evelyne Cadieux, vous habitez à Antibes aujourd'hui. Vous avez écrit beaucoup d'autres ouvrages, notamment concernant Saint John Perse. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire ce livre sur la guerre d'Algérie? Est-ce que c'était un besoin de revenir à vos racines? Est-ce que c'était une volonté d'apporter un nouveau regard sur ces événements?
Eh bien, il y a peut-être un peu des deux, mais surtout la deuxième chose, bien sûr, apporter un nouveau regard. Parce que j'estime qu'en tant que citoyen, nous sommes responsables précisément de ce qui se passe dans le monde. Et dès lors qu'on a peut-être le sentiment que l'on peut faire quelque chose pour faire en sorte qu'il y ait en Méditerranée un espace de paix et un espace de partage, eh bien, je pense qu'il faut employer tous les moyens pour cela. Et le fait d'écrire un livre, et surtout un livre qui puisse être destiné à un film qui va toucher un plus grand public, et dans l'idéal, un film qui serait fait à la fois par un réalisateur français, enfin européen tout au moins, et un réalisateur algérien, me semble une chose très, très souhaitable.
Ce livre a une véritable portée politique, c'est comme ça que vous l'avez conçu et écrit?
Tout à fait, ce n'est pas seulement une histoire que je raconte, c'est une histoire qui doit être transmise et qui a la vocation en effet d'apporter quelque chose, de contribuer en quelque chose à notre citoyenneté européenne et en particulier à l'action des Européens et des Algériens en Méditerranée du fait de ce rapport particulier qu'il y a eu entre la France et l'Algérie et qu'il continue d'y avoir.
Alors avant que vous nous expliquiez pourquoi vous avez intitulé votre roman La Maison des Chacals, il y a une autre chose que je voudrais que vous nous précisiez. Quand vous parlez justement de construire un espace de paix en Méditerranée, vous dites que la ville méditerranéenne, elle est conçue d'une manière bien spécifique, autour de quartiers et non pas autour de ghettos.
Ça, c'est en effet une idée très importante, me semble-t-il. C'est quelque chose, une structure que l'on retrouve aussi bien à Alexandrie qu'à Alger précisément, ou à Marseille autrefois. Donc des quartiers, mais pas de ghetto, c'est-à-dire que chacun est dans son quartier, peut vivre sa journée à sa façon, avec ses heures pour se lever, pour se coucher, avec ses jours de fête, avec ses pratiques, ses odeurs. Et pour autant, il n'y a pas de séparation, pas d'interdit d'un quartier à l'autre. Donc il y a possibilité d'être ensemble, mais ensemble en respectant l'identité de chacun.
Donc c'était tout le sens aussi du souhait des Algériens à l'époque d'être rattachés à la France en gardant leurs traditions.
Voilà, exactement.
Alors, pourquoi ce titre, La Maison des Chacals? Spontanément, moi, quand j'ai vu le titre, je ne me suis pas dit que ça allait parler de la guerre d'Algérie.
D'abord parce que en Algérie, on sait les chacals, cela désignait les musulmans. Mais dans l'histoire, il y a en face des chacals qui pouvaient avoir une connotation péjorative, des chiens. Après tout, quand on dit que quelqu'un est un chien, ça n'est pas particulièrement laudatif non plus. Donc c'est un conte essentiellement, qui est le conte éponyme, donc puisqu'il sert au titre. Mais le nom vient en fait d'une image d'enfant. Dans le village où je passais toutes mes vacances chez mon grand-père, la maison était située à la sortie du village et j'avais pour habitude de me sauver de la maison. Et donc le seul interdit, la seule chose qui pouvait m'empêcher de partir au loin, c'était de me dire que ces chacals dont j'entendais la nuit les hurlements sur les 40 mètres, c'est-à-dire de l'autre côté de la fenêtre de ma chambre, eh bien ces chacals étaient là tout près dans la maison qui était sur la colline, une petite maison abandonnée. Initialement, cela vient de cela, la maison des chacals, mais il y a bien sûr ce conte.
Que je vous laisse nous lire.
Oui, je vous remercie. C'est donc Albert Joinet qui raconte à son fils la maison des chacals. Autrefois, sur les hauts plateaux, les chacals et les chiens vivaient en bonne intelligance. Bien sûr, ils n'avaient pas les mêmes goûts ni les mêmes habitudes. Les chacals aimaient la liberté, leur terrain de chasse était sans limite et ils parcouraient librement la nuit surtout toute la campagne autour de l'Oued, les petits bois et les collines des environs. Les chiens, eux, n'avaient pas besoin de grands espaces. Ils préféraient avoir la responsabilité d'un territoire bien délimité, mais avec tous leurs droits. Ils recevaient régulièrement leur nourriture pour prix de leur service. Ils veillaient sur leur domaine et ils étaient heureux d'y voir grossir le bétail et pousser les récoltes. Comme le pays était vaste, il y avait de la place pour tout le monde. Et même si ça n'avait pas été facile au début, une sorte d'accord s'était établi entre les animaux. Il y avait bien encore parfois des problèmes ici ou là, quand un chacal convoitait depuis trop longtemps une poule bien grasse, ou quand un chien s'aventurait hors de son domaine. Mais d'une façon générale, malgré toutes leurs différences, les chacals et les chiens vivaient en paix. Et régulièrement, à la pleine lune, ils faisaient une grande fête, tous ensemble, dans la maison de la colline. Ils s'y retrouvaient pour jouer, danser, ripailler, et tout le plateau retentissait de leurs hurlements de joie. Et les hommes ne disaient rien ? Non, les hommes les laissaient faire, même s'ils dormaient mal cette nuit à cause du bruit. Or, un jour, il y eut de grandes troupes dans le pays, et les hommes décidèrent de renforcer la protection de leur domaine. Ils importèrent une nouvelle race de chiens, gros et forts, qui ne pensaient qu'à se faire bien voir de leur maître, pour avoir les os les plus juteux et les meilleurs morceaux de viande. Ils se mirent à monter une garde farouche sur leur territoire. Et quand les chacals vinrent les appeler pour la fête rituelle à la pleine lune, ils clamèrent que les chiens ne pouvaient rien avoir de commun avec les chacals, et qu'ils ne devraient plus, désormais, s'approcher en deçà des 40 mètres. Or, cette même nuit, survint une hyène qui s'adressa avec autorité à la bande de chacals réunie en grand conseil. Elle leur dit en ricanant « Vous êtes 10 fois plus nombreux que les chiens et vous capitulez devant eux? Ils vous interdisent d'entrer dans les poulaillers que leurs maîtres ont installés sur votre territoire? Ils s'empiffent de tous les bons morceaux de viande qu'on leur donne pour prix de leur service et vous, vous fuyez dans la montagne? Si les murs sont trop hauts, les grillages trop serrés, mettez-vous à l'affût, guettez le bon moment et montrez-leur donc ce que peuvent faire des animaux qui ont toujours chassé librement. » La hyène était laide et bossue, mais comme toutes les hyènes, elle savait parler et se faire convaincante. Cette nuit-là marqua le début de la guerre entre les chacals et les chiens. Depuis lors, les soirs de pleine lune, la maison de la colline s'éclaire encore un bref instant, comme si elle annonçait la grande fête rituelle, comme si de nouveau tout était possible, et puis tout s'éteint. Un jour, peut-être un chien, avec un autre, et puis un autre encore, comprendra de nouveau le signal. Peut-être un jour un chacal, avec un autre, et puis un autre encore, aura envie de faire revivre avec tous les chacals et tous les chiens des hauts plateaux les fêtes de la pleine lune.
Quand on vient d'entendre ce morceau, on se demande mais comment on a pu en arriver là? On vivait en frère avant, et puis tout d'un coup on vit en ennemi.
Mais il y a un moment où les choses ne sont plus supportables, c'est tout. Une organisation d'un territoire, une organisation de vie ensemble dans la cité, qui ne respectaient pas les représentations personnelles que les uns et les autres pouvaient se faire de leur destin, ou tout au moins de leur place dans cette société, cela devient insupportable et par conséquent, cela éclate. C'est ce qui s'est passé.
Et c'est pour ça que les Algériens en viennent à désirer une Algérie algérienne, voire même une Algérie arabe.
Oui, restons à l'Algérie algérienne si vous le voulez bien. En effet, ils en sont venus là à la suite de tout un ensemble d'erreurs, mais ce n'était pas irrémédiable, c'est-à-dire qu'on aurait pu trouver une solution. Bref, on ne l'a pas trouvé et il est vain d'essayer de réécrire l'histoire maintenant. C'est un échec politique avant tout, par manque d'imagination tout simplement, et ensuite par volonté délibérée de ne pas faire entrer certainement des musulmans ou des gens d'une autre culture à l'intérieur de l'Assemblée nationale française. Ça, il faut bien le reconnaître. S'il y avait eu des députés à l'Assemblée nationale en beaucoup plus grand nombre, ça n'aurait été insupportable pour la France métropolitaine. C'était tout au moins la vision de De Gaulle.
Nous arrivons au terme de notre émission. Avant qu'on se quitte, Evelyne Cadu, que je voudrais signaler que vous allez donner une conférence mardi 12 décembre à 4h au Centre universitaire méditerranéen, qui est 65 promenade des Anglais à Nice. Je vous laisse nous dire le thème de cette conférence.
Nous avons une femme algérienne, de nationalité algérienne, qui vient d'être élue à l'Académie française. Il s'agit d'Assia Djebbar. Donc je vais présenter cette femme, Assia Djebbar, une écrivaine algérienne élue à l'Académie française, en effet, mardi 12 décembre, en insistant essentiellement sur le fait que l'Académie française, ayant pour mission de contribuer au développement et à la mise en valeur de la langue française dans le monde, elle honore précisément ceux qui, ayant eu un enseignement à l'intérieur de la francophonie, l'ont développé, l'ont illustré de manière particulière, et c'est le cas d'Assia Djebbar, qui dans le même temps défendait aussi la femme, précisément la femme dans les sociétés musulmanes, qui a été pendant si longtemps oppressée.
Donc mardi 12 décembre à 4h, au CUM. Evelyne Cadu, merci beaucoup. Je rappelle pour les auditeurs qui sont arrivés en cours de route que vous êtes l'auteur de « La maison des chacals », paru aux éditions du Rocher, et que ça parle de la guerre d'Algérie. C'est passionnant, donc si vous voulez en savoir plus, il faut acheter et lire le livre. Merci beaucoup.
Je vous remercie de votre réception et de l'écoute des auditeurs.